Livre de Ruth, chapitre 3, nous reprenons la lecture au verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains pas, tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Maintenant, il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, toutefois, il y en a un qui a le droit de rachat et qui est plus proche que moi. Passe ici la nuit et s'il arrive que le matin il veuille te racheter, c'est bien qu'il le fasse. Et s'il ne lui plaît pas de te racheter, l'Éternel est vivant, que je le ferai, moi. Reste couchée jusqu'au matin. Et elle resta couchée là, à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre, et dit qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Et lui dit, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge, et les mit sur elle, et elle entra dans la ville. Et elle vint vers sa belle-mère, et celle-ci dit, « Qui es-tu, ma fille ?» Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera, car l'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. » Et Boaz monta à la porte et s'assit là. Et voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Elle dit, « Toi, un tel, détourne-toi, assieds-toi ici. » Et il se détourna et s'assit. Et Boaz prit 10 hommes, des anciens de la ville, et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent et il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, qui est revenue des champs de Moab, vend la pièce de terre qui était à notre frère Elimelech. Et moi, je me suis dit, je t'en enfermerai, et je te dirai, achète-la, en la présence des anciens, en la présence des habitants et à la présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne veux pas racheter, Déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne que toi pour racheter. Et moi, je suis après toi. Et il dit, je rachèterai. Et Boaz dit, au jour que tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son héritage. Et celui qui avait droit de rachat dit, je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. Use-toi de mon droit de rachat, car je ne puis racheter.
En résumé de ce que nous avons dit la dernière fois, nous avons parlé du début du chapitre 3 de Ruth. Et nous avons vu que, premièrement, Naomi dirige Ruth vers Boaz. Nous avons parlé du temps convenable que nous expérimentons aussi dans nos vies avec le Seigneur. Naomi dit à Ruth d'attendre que Boaz soit couché. Ruth devait discerner le moment de le faire. Nous avons rappelé que Ruth n'avait aucune sécurité en tant que veuve. Mais elle n'a pas cherché un mari chez les jeunes hommes, ni même dans celui qui avait le droit de rachat avant Boaz. Elle va à Boaz directement pour être rachetée, selon l'ordonnance de Lévitique 25. On voit qu'à ce moment, l'activité de Boaz était l'évanage. Cela nous parle de l'activité de Christ, rassembler tous les siens, et les préparer pour sa venue. Il sanctifie et purifie son Église pour se la présenter sans tache. Le résultat, au verset 7, Boaz avait le cœur joyeux parce que Dieu avait béni son travail. Mais nous avons vu au verset 8 que, au milieu de la nuit, la joie de Boaz a été changée en peur. Comme l'effroi a saisi le cœur de notre Seigneur lorsqu'il a été abandonné par son Dieu. Mais lorsqu'il se réveille, sa future épouse est à ses pieds. Boaz reconnaît alors les vertus de Ruth et son attachement à sa belle-mère. Elle désirait se confier en Dieu et non pas au monde et ses avantages. C'était une femme active et discrète, et dans ce chapitre, elle est encore humble. Elle parle toujours en disant « ta servante ». Il lui dit « tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement ». Et il lui dit qu'elle est une femme vertueuse, qui craint l'Éternel. Alors, nous avons vu que à ses pieds, Ruth va trouver le bonheur, comme sa belle-mère lui a indiqué en début du chapitre. Elle est attirée par Boaz, mais nous voyons aussi que Boaz désire Ruth, de la même manière que nous aimons le Seigneur, mais nous découvrons aussi que son cœur nous désire. Il n'a pas seulement de la pitié pour nous, mais nous voyons au chapitre 7 du Cantique des Cantiques, je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Une fois au pied de Boaz, maintenant, c'est lui qui prend les choses en main. C'est bien lui qui va s'occuper de ce qui la concerne maintenant. Ruth n'a plus qu'à attendre sa réponse. Comme dans le psaume 37, demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. Il lui dit, reste couché jusqu'au matin. Et elle a alors l'assurance que l'homme n'aura pas de repos, qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Et elle peut revenir à Naomi dans cet esprit. C'est ce que nous allons voir maintenant.
Je voudrais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Verset 39. 38. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Ruth, chapitre 3, verset 8. Et il arriva au milieu de la nuit que l'homme eut peur et se tourna. Et voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, « Qui es-tu ? » Et elle dit, « Je suis Ruth, ta servante, et étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Ruth était au pied de Boaz. Marie était assise au pied de Jésus. Être à ses pieds, cela montre clairement quelle place occupe Boaz dans le cœur de Ruth. Et Marie se tenait assise au pied de Jésus. Et cela montre aussi quelle place avait Jésus dans le cœur de Marie. Ce sont des exemples de la parole de Dieu. Et nous pouvons trouver ces deux scènes très belles, magnifiques. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas un enseignement doctrinal pur, mais cet enseignement nous montre ce que nous devons faire, ce que nous devons être. Et nous pouvons nous poser cette question, combien de temps passons-nous au pied du Seigneur dans la semaine ? Marie était attentive, très attentive à ses paroles. Et cette question, prenons-nous le temps de cultiver des relations d'intimité avec le Seigneur, avoir un contact direct avec lui. L'enseignement que nous avons lu dans Ruth, comme dans l'évangile de Luc, c'est avoir un contact direct avec le Seigneur, être à ses pieds, passer du temps avec lui. Et c'est cela qui a un grand prix dans notre vie spirituelle, c'est avoir ce contact avec le Seigneur. Peut-être qu'il faut dire non à certaines de nos distractions qui peuvent nous paraître indispensables, ces distractions. Et la question que nous pouvons nous poser, quelle est notre priorité dans notre vie spirituelle ? Est-ce que nous voulons prospérer dans notre vie spirituelle? Et Si Dieu nous donne ces exemples magnifiques, eh bien, il faut que ces exemples aient un impact pratique dans notre vie.
Si on regarde les chapitres 2 et les chapitres 3, on voit un contraste sur de nombreux points entre les deux. Au début du chapitre 3, on voit que c'est Naomi qui dit à sa fille : « Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse ?» Chapitre 2, c'était Ruth qui avait dit : « Je te prie, j'irai au champ et je glanerai parmi les épis. » Chapitre 2, Naomi lui répond : « Va, ma fille », sans plus d'informations. Et au chapitre 3, on voit dans ce premier paragraphe tous les conseils que Naomi donne à sa belle-fille Ruth pour lui dire comment elle doit faire et ce qu'elle doit faire vis-à-vis de Boaz. Et au chapitre 2, la fin du verset 3, au début du verset 3, « Et elle s'en alla et entra et glana dans un champ après les moissonneurs, et elle se rencontra fortuitement que c'était la portion du champ de Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. » On voit comment, là, alors que dans ce chapitre 2, Ruth sort et va glaner dans un champ sans autre indication, Dieu conduit les choses et Dieu permet que Ruth va glaner dans le champ de Boaz. À l'inverse, dans le chapitre 3, Ruth va au pied de Boaz de manière choisie. Et il n'y a pas un manque de foi, mais il y a cette différence entre la première où Ruth se laisse conduire et la deuxième où il y a déjà des décisions qui ont été prises avant. Dans le chapitre 2, Ruth va glaner de jour. Et dans le chapitre 3, Ruth va s'installer de nuit au pied de Boaz. Est-ce que c'était la crainte ? Est-ce que c'était parce que c'était le moment propice ? On avait aussi chez autant du Seigneur ceux qui allaient de jour et on avait ceux qui allaient de nuit au Seigneur par crainte des Juifs. Et on a ce verset au verset 14 du chapitre 3. Et elle resta couchée là à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre et Boaz, et il dit qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Il y avait comme un aspect caché. Il fallait pas qu'on sache que Ruth était venue là s'allonger au pied de Boaz. Il y a des choses aussi qu'on peut voir dans nos vies, on les fait plus ou moins ouvertement. Des choses qu'on fait avec Dieu, en faisant totalement confiance. Et il y a aussi des choses que souvent nous avons tendance à ne pas laisser entièrement à Dieu et à prendre déjà des décisions. Je ne dis pas qu'il ne faille pas choisir. Il y a des choses que nous avons aussi à organiser. Mais des domaines de nos vies où nous donnons moins de liberté à Dieu pour nous conduire et pour nous amener selon ses desseins.
On peut voir aussi dans ce que tu viens de relever, Adrien, deux aspects de notre marche. Dans le chapitre 2, c'est plus un côté de la marche publique, du témoignage qu'on donne dans notre vie, dans notre quotidien, dans les choses que tout le monde voit. Alors qu'au chapitre 3, que ce soit l'entretien au début et à la fin entre Naomi et Ruth, ou que ce soit l'entretien de Ruth et de Boaz, on a des choses qui font partie de notre vie secrète avec le Seigneur. Et les deux vont ensemble pour converger vers un même point, qui est ce qu'on aura au chapitre 4, où on a de nouveau ce côté, alors lui, public au point d'être officiel. On prend par exemple simplement une expression au verset 10 du chapitre 4, la fin du verset, « Vous en êtes témoins aujourd'hui ». Et les anciens, le peuple qui répond, « Nous en sommes témoins ». Où on est devant quelque chose qui est vraiment complètement public, en ce sens qu'il y a un témoignage officiel, si on peut dire comme ça. Et qu'au fond, là, ce chapitre 3, ce qu'on voit dans ces différents paragraphes du chapitre 3, ce sont des étapes de ce travail secret, personnel, individuel, du Seigneur avec une âme, pour la conduire pas après pas. Il y a besoin, on l'avait relevé l'autre fois, d'un discernement du moment, et puis on peut voir au dernier paragraphe aussi, verset 18, « Demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. » Une attente confiante, ne pas bouger, ne pas s'inquiéter, ne pas s'agiter, ne pas essayer de faire avancer les choses, demeure. Demeure jusqu'à ce que tu saches. Et ce sont ces côtés ce cheminement dans nos hésitations, dans nos doutes, dans nos actes de foi que personne ne voit sinon le Seigneur. Le passage de Luc avec Marie montre un côté public. Marie était au pied du Seigneur, tout le monde le voyait. Et Marthe en particulier le voyait. Là, c'est quelque chose de secret avec le Seigneur. Si on veut prendre l'image du croyant avec le Seigneur entre Ruth et Boaz, c'est quelque chose qui doit se faire, des étapes qui doivent se faire, mais qui n'ont rien, qui ne regardent pas, on peut dire même, qui ne regardent pas tout le monde. Et ce qui s'est passé au chapitre 2 a sa place, quand Boaz dit... tu as montré, verset 10, tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement, ben c'est toute la marche publique de Ruth que Boaz peut, dans le privé, seul avec elle, lui relever. Tu as montré, constaté cela. Mais c'est quelque chose qui se passe loin des yeux de tout le monde. Notre marche doit être faite de ces deux aspects. Une marche publique, où tout le monde peut voir ce qu'il en est, où nous en sommes, quel est notre but, quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui a du prix, de la place, et puis ce côté secret, seul avec le Seigneur, où là il y a la place aussi pour tout ce qui peut être nos débats avec lui. Je pense en parallèle à ce qu'on voit par exemple chez des prophètes, Jérémie en particulier, où tout son service public est entrecoupé dans son livre de ses échanges personnels de Jérémie avec l'Éternel et de ses débats où Jérémie est dans cette souffrance de pourquoi doit-il annoncer des choses pareilles et il le dit à Dieu et c'est quelque chose dont il rend témoignage par écrit mais qui est au fond une chose qui était seule entre lui et le Seigneur. Là on est bien sûr dans un tout autre chemin, c'est pas Ruth est dans un chemin de découverte et de croissance et d'avancement avec Dieu.
Je voulais juste relever ce que Boaz dit au début de ce verset 10, au début du verset 11, pardon. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Ruth était venue au pied de Boaz. Dans cette attitude de soumission dans laquelle on s'assied au pied du Seigneur pour lui dire « Toi tu es grand, moi je suis petit et je viens pour écouter ce que tu veux me dire. » Et Boaz vient lui dire « Et maintenant ma fille, ne crains pas. » Combien de fois dans les évangiles nous voyons aussi le Seigneur venir dire à ses disciples « Ne crains pas. » Et comme on l'a déjà relevé dans le résumé, Boaz va prendre les choses en main pour prendre soin de Ruth, comme il lui a déjà montré tant de fois dans le début de son histoire.
Ruth, chapitre 3, après l'expression « Et maintenant, ma fille, ne crains pas », nous avons une deuxième affirmation. « Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. » Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 13, « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Avons-nous la certitude, comme Ruth a pu avoir la certitude que Boaz l'avait écouté et que sa réponse « Je le ferai pour toi », est-ce que nous avons la même certitude de la foi que quoi que nous demandions au Seigneur en son nom, eh bien, il nous écoute et il répondra selon sa volonté. Et maintenant, ma fille, ne crains pas, tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. Encore la deuxième expression au verset 13. Passe ici la nuit, et s'il arrive que le matin il veuille te racheter ses biens, qu'il le fasse. Et s'il ne lui plaît pas de te racheter, l'Éternel est vivant, que je le ferai moi. Nous voyons que Ruth est la dépositaire de deux promesses. Deux promesses de la part de Boaz. La première promesse, c'est « Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. » Et la deuxième promesse, eh bien, s'il ne lui plaît pas de te racheter, l'Éternel est vivant, que je le ferai moi. L'Église sur la terre, aujourd'hui, a beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Nous avons la promesse du pardon de nos péchés, nous avons la promesse de notre adoption, nous avons la promesse que nous connaîtrons la résurrection, nous avons la promesse qu'un jour nous serons dans la maison du Père et que le Seigneur va venir nous chercher. L'Église aussi est la dépositaire de beaucoup de promesses de la part du Seigneur Jésus. Et nous pouvons souligner cette expression « Je le ferai pour toi ». L'Éternel est vivant, que je le ferai moi. Ruth a eu ces deux promesses de la part de Boaz. Mais quelles promesses nous avons en Christ aujourd'hui comme son Église bien-aimée.
Ruth était donc au pied de Boaz. Elle est restée au pied jusqu'au matin. Et puis, Boaz lui dit qu'on ne sache pas qu'une femme était venue dans l'air. Bethléem était un petit village. Tout le monde savait tout de chacun, l'un de l'autre. Mais il ne fallait pas qu'on sache qu'une femme était venue chez lui. Parce que c'était une femme. Le village savait que c'était une femme vertueuse. Et donc une femme vertueuse. Et de cette... Donc Boaz ne voulait pas qu'on le sache parce que Ruth était devenue son épouse. Donc il fallait que la femme vertueuse qui était connue du village reste une femme vertueuse. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur la femme vertueuse et nous l'avons cité Proverbe, mais on peut lire Proverbe 12, verset 4, Proverbe 31, verset 10 et verset 29. Proverbe 12, 4.
Une femme vertueuse est la couronne de son mari.
31, 10 et 31, 29.
Une femme vertueuse, qui la trouvera, car son prix est bien au-delà des rubis.
Verset 29.
Plusieurs filles ont agi vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. On peut ajouter quelque chose sur la... Ce proverbe 31 sur la femme vertueuse. Dans Proverbe 31, c'est une femme qui est digne d'être la compagne d'un roi. Et nous trouvons mille de ses occupations pour sa famille et pour son mari. C'est une femme qui est sage, active et qui craint l'Éternel. Et le livre des Proverbes nous offre le portrait complet d'une femme vertueuse. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé de plusieurs femmes vertueuses. Par exemple, dans Genèse 22, il nous est parlé de Rebecca. Et Rebecca représente plutôt la servante humble et qui donnait de l'eau aux serviteurs et aux chameaux avec empressement. Et c'est une femme qui va se mettre en route vers Isaac, qui est confiante et qui va se couvrir à la vue de son futur mari dans une vraie soumission. Et si dans les Proverbes nous voyons un tableau complet de femmes vertueuses, nous voyons plutôt dans la parole de Dieu des femmes aussi vertueuses, mais chacun un caractère particulier est souligné. Donc dans Genèse 22, c'est la servante humble qui donne de l'eau aux serviteurs et aux animaux, aux chameaux, et qui se précipite, elle le fait avec empressement. Dans la Genèse, il nous est parlé aussi de Rachel. Rachel en particulier, il y a un verset dans Jérémie 31 qui nous parle plutôt d'une femme vertueuse, mais avec l'amour maternel, et elle pleurait ses fils. Et nous voyons que Rachel... La parole de Dieu souligne plutôt le côté de l'amour maternel. Une autre femme vertueuse que nous connaissons sans doute, c'est Abigaïl dans 1 Samuel 25. Et c'était une femme humble aussi et de bon sens, un modèle de piété, d'humilité. Et et de confiance sans réserve envers David. Il y a encore l'exemple d'Esther, donc ce sont des exemples de l'Ancien Testament, et c'est le modèle d'une femme qui est entière au service du peuple de Dieu. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Encore une remarque à propos de Ruth. Ruth est aussi l'image de l'Église pendant la nuit de l'absence de Christ. Et nous voyons que, comme Ruth, l'Église bénéficie des soins et de la protection de son Seigneur. Et le jour ne s'est pas encore levé pour l'Église. On a dit aussi que Ruth est une image du résidu juif pendant la nuit de la grande tribulation dans l'Apocalypse. Et ce résidu juif, donc, qui sera retourné en Israël, montrera vertu, sainteté et justice pratique dans toutes ses voies. Et Dieu tirera de son peuple un résidu, un reste, comme il nous est dit, composé de fidèles qui formera donc la nation nouvelle d'Israël pendant le millénium. Et juste pour dire que ce résidu pendant la grande tribulation sera mis à l'abri dans le désert et dans les montagnes et bénéficiera aussi de la protection de son Seigneur. Et dans le désert, le Seigneur pourra le nourrir. Et ce sujet est présenté dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Encore une remarque sur le verset 15. Il lui dit: donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge et les mit sur elle. Et il entra dans la ville. 6 mesures d'orge, c'était 2 éphas, donc c'était un poids qui était important, pratiquement 50 kilos. Et c'est un signe c'est une double portion, et c'est un signe d'une faveur spéciale. Et ce que nous pouvons souligner, c'est qu'il les met sur elle. C'est-à-dire, sur elle, c'est comme une couronne. Et en hébreu, mettre sur elle, c'était mettre sur la tête comme une couronne. Et on peut relier ce passage avec le psaume 103 au verset 4, où il est dit: mon âme bénit, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta vie de la fosse. Et voilà l'expression: qui te couronne de bonté et de compassion. Et ne voyons-nous pas dans cette manifestation de Boaz vis-à-vis de Ruth? Il lui manifeste toute sa faveur. Il la couronne de bonté et de compassion.
Au milieu du verset 16, au début du verset 16, elle vint vers sa belle-mère et celle-ci lui dit « Qui es-tu, ma fille ?» Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. On vient de relever cette bonté, cette compassion dont Boaz couronne Ruth. Et on voit là, dans la suite, ces deux femmes de foi qui sont occupées de quelqu'un, de l'homme. Elles sont occupées de lui, elles sont occupées de tout ce qu'il a fait pour Ruth, mais aussi pour Naomi. Comme on voit ensuite, il m'a dit, tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Elles sont occupées des soins et de l'amour de Boaz pour elle. Et c'est notre privilège aussi d'être occupées du Seigneur Jésus, de ses soins, de son amour. Ces deux femmes étaient toujours encore dans le pays d'Israël, encore dans leur condition de veuvage pour les deux. Mais elles étaient occupées de Boaz. Et c'est ça qui, on peut dire quelque part, illuminait leur situation qui pouvait être difficile.
Encore une remarque avant de prendre ouvertement la cause de Ruth, ce que nous venons de lire. Eh bien, Boaz lui donne des gages de ce qu'il veut faire pour elle. Et il lui donne des gages en secret. C'est la même chose qui nous concerne. Avant de voir le Seigneur de nos propres yeux, avant de le reconnaître, de le voir, eh bien, il nous a donné aussi des gages, et c'est le Saint-Esprit de la promesse. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage futur, de notre future union avec Christ dans le ciel. Et les gages que nous avons reçu, le Saint-Esprit de la promesse, chaque croyant, eh bien, c'est un gage de notre futur héritage avec Christ.
On a une scène un peu similaire, mais avec beaucoup de différences en même temps, quand les frères de Joseph reviennent d'Égypte, Genèse 45, à la fin du chapitre, et rapportent à Jacob, Joseph vit encore. Je dis similaire en ce sens que on a d'un côté Jacob qui était en Genèse, qui était resté en Palestine, on a d'autre côté Joseph qui est maître de l'Égypte, après le Pharaon, qui a tout pouvoir. Et on a les frères de Joseph dans une position plutôt ambiguë. Ils ont à confesser, ils ont à se faire pardonner ce qu'on pourrait appeler le meurtre de Joseph, parce que c'est ça que Jacob a compris, mais qui doivent au fond apporter une bonne nouvelle avec aussi tout ce que Joseph leur a donné, où il est parlé des chariots et de tout ce qu'il avait rapporté d'Égypte, qui va parler à Jacob justement de ce qui s'est passé et de la vérité du message. Et on a Joseph qui est là et qui s'occupe de tout, qui s'occupe de préparer la place pour recevoir Jacob, son père et ses frères. Alors je vois juste l'analogie dans le schéma. Bien sûr, l'histoire de Jacob est totalement différente, on ne peut pas la comparer à celle de Naomi, même s'il y a ce temps d'éloignement en Moab qu'on pourrait rapprocher. L'histoire de Ruth est aussi totalement différente de celle des frères de Joseph, quoique on peut voir en Ruth que la Moabite, celle qui n'a pas de place en Israël, et ne s'arrêter juste à cet aspect-là. Mais on a ce côté qui est ressemblant en lui, c'est Joseph comme Boaz, qui est celui qui a tout pouvoir de s'occuper de ces choses-là, qui donne ce gage qu'il va s'en occuper et qui s'en occupe. Et on voit bien que Boaz en particulier, au début du chapitre 4, le chapitre 4 montre tout, commence tout de suite, et Boaz monta à la porte et s'assit là. Donc le matin venu, il n'y a pas il est en plein temps de la moisson, battre le froment, c'est au fond important, le temps peut changer, mais non, ce n'est pas ça qui est important maintenant, il va s'occuper tout de suite de cette affaire. Et Naomi et Ruth sont là, ayant ce gage qu'il va s'occuper de toute chose, qu'il va s'occuper d'elles, de ce qui les concerne, chacune, parce que Boaz a bien dit, tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Les deux mesures, les six mesures, c'est pour apporter à Naomi. Il y a là un message aussi pour Naomi. Si une issue se profile pour Ruth, ce n'est pas pour autant que Naomi va être délaissée. Et ce qui est, alors c'est maintenant un autre aspect, ce qui traverse ce qu'on a lu et la suite, c'est qu'en Boaz, on voit un homme intègre, un homme qui, on peut dire, je parle du Boaz, l'homme Boaz, quelqu'un qui a le cœur, qui a un souci de marcher selon le cœur de Dieu. Quand il dit au verset 13, à propos de l'autre qui a un droit de rachat, s'il arrive que le matin il veuille te racheter, c'est bien qu'il le fasse. Le droit de Dieu, c'était le plus proche parent. Le Boaz respecte le droit de Dieu. Mais s'il ne lui plaît pas, je te rachèterai. Il n'y a pas une volonté de Boaz de passer devant. Non. Il y a une volonté de Boaz que Ruth trouve l'issue dont elle a besoin, telle que Dieu l'a préparée. Et alors, il y a celui qui est plus proche, qui a un droit de rachat, qui est plus proche, qui doit passer avant. Et si celui-là ne veut pas, ben je prendrai l'affaire en main, je le ferai moi. Et associé à cela, cette orge qu'il fait parvenir à Naomi, c'est le message. Je m'occupe de chacune de vous. Et puis, après, au chapitre 4, Boaz monte à la porte et s'assied. C'est remarquable qu'il ait dit là, il monte à la porte et s'assied là. Donc, il vient s'asseoir et de là, il va appeler, de cette place, il va appeler les différentes personnes dont il aura besoin, celui qui a droit de rachat avant lui, les anciens comme témoins, tous les habitants qui veulent s'arrêter, regarder, qui assisteront et qui seront témoins. Et lui, en quelque sorte, préside la chose, ce qui va se passer là. Bien sûr, là, on s'éloigne beaucoup du parallèle que je faisais avec Jacob. Mais ce qui me frappait juste, c'est ce côté. Dans Genèse 24, on a aussi ce côté de... Genèse, pas 24, 44, 45... Verset 27, ils lui dirent toutes les paroles de Joseph qu'il leur avait dites, et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, et l'esprit de Jacob leur père se ranima, et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai, je le verrai avant que je meure. Il raconte, puis Joseph voit Et puis alors, les choses changent pour lui. Qu'es-tu, ma fille ? En allemand, il est dit « Où en es-tu, ma fille ? Où en sont tes affaires ?» On peut dire « Qui es-tu ?» est un peu... J'ai trouvé nulle part ailleurs que ce soit repris comme ça. Ailleurs, Saint-Jean a plutôt dit dans le sens de « Où en sont tes affaires, ma fille ? Qu'est-ce que ça a donné ?» Et Ruth raconte. Et Naomi voit. Et puis alors maintenant, attendre que les choses soient menées au terme. Pas s'agiter, pas se mettre en souci. Il n'y a pas de souci à se faire, c'est peut-être quelque chose qu'on peut retenir. Nous pouvons faire confiance au Seigneur qu'il va s'occuper de nos affaires et pourtant nous mettre en souci. Non. L'homme n'aura pas de repos qui n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Donc, demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel. Je ne sais plus, dans un psaume, je ne me rappelle plus.
Je voudrais juste faire un petit commentaire là, sur ces deux versets 17 et 18, mais par rapport à Naomi, il m'a donné 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Si on va à la fin du chapitre 1, déjà à la fin du verset 19, est-ce là Naomi ? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, je m'en ai allé combler et l'Éternel me ramène à vide. Donc là, le début du chapitre, au chapitre 1, on voit cette je ne sais pas si on peut appeler ça une épreuve, mais une circonstance quand même très particulière de Naomi. Elle a ce sentiment de revenir à vide, mais ce n'est pas tout à fait exact. Elle revient avec Ruth. Et au début, c'est quand même Ruth qui lance un peu les choses, et Naomi, elle prend progressivement aussi conscience de ce qui est en train de se dérouler, de l'amour aussi du Seigneur pour elle, et elle s'avère d'être de fort bons conseils pour Ruth. Et au verset 18, elle peut transmettre aussi ce message de patience et de voir aussi les choses du Seigneur qui se déploie devant nous aussi pour nous redresser de situations difficiles peut-être, et d'avoir ce conseil. Demeure ma fille jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Ce message de confiance, laisser le Seigneur agir, même si des fois on peut revenir de situations bien compliquées, on sait que le Seigneur il est là avec nous pour nous redresser.
Une pensée, on voit que si Boaz avait simplement et seulement donné les 6 mesures d'orge, le cœur de Ruth n'aurait pas été si comblé. Mais il y avait pour elle ce temps où elle a passé du temps à ses pieds. Et certainement que c'est cela qui lui a fait brûler son cœur et qui lui a fait raconter tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et peut-être pour nous, une application pratique serait que lorsque nous passons du temps avec le Seigneur, nous rapportons en nous des choses. Mais ces choses-là, nous les devons à nos frères et sœurs, pour qu'ils tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Est-ce que nous avons à cœur de partager ce que notre Seigneur, le parfait homme, avait fait pour nous? Dans les détails de nos vies, premièrement, il n'est pas dit là tout ce que l'homme avait dit pour elle, mais tout ce que l'homme avait fait pour elle. peut-être dans les détails de nos vies, mais aussi dans ce que nous avons appris à ses pieds. Il y a une partie qui reste à ses pieds et qui n'est qu'entre lui et nous. Il y a une partie que l'on rapporte et que l'on raconte à d'autres. Je pensais simplement à deux passages dans Hébreux. Hébreux 10, verset 24. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et au chapitre 12 et au verset 14, poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. On voit que ce n'était pas un travail forcé, ce qu'a fait Ruth. Elle a parlé de tout son cœur. Mais elle a eu à cœur de revenir vers Naomi.
Dans le cantique 134, les strophes 1 et 5.
134, strophes 1 et
5.
5.
Yeah.